que je finisse ma gorgée. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à cette soirée d'étude de la parole de Dieu. Soyez bénis, bien-aimés, par la parole de Dieu, par la présence de Dieu. Le Seigneur est fidèle, le Seigneur est vivant. Et par sa grâce, nous sommes présents. Par sa grâce, nous sommes vivants. Par sa grâce, nous sommes sauvés. Par sa grâce, nous sommes présents. Alors, soyez tous bénis. Important d'être proche du Seigneur, important d'être bien fondé dans la parole de Dieu et de se laisser imprégner de sa vie. Parce qu'on ne vit pas des temps faciles, on vit des temps qui sont complexes et qui n'apportent nécessairement pas de la légèreté dans nos vies. Et on le voit de plus en plus, les gens comme parlent de l'importance de la santé mentale et avec toute la pandémie et le confinement et toutes les choses qui se passent, comment est-ce que c'est en train d'affecter les gens et comment ça peut même affecter les chrétiens aussi. C'est important que nous, pour être en mesure de vivre en paix, de pouvoir refléter, de pouvoir témoigner même par la façon comment nous vivons notre attitude et nos paroles qui vont venir confirmer dans le fond nos actions, notre attitude. Il est important pour nous d'être proche du Seigneur, d'être près de sa parole, d'être nourri, d'être éclairé, d'être fortifié et d'être affermi aussi. Dans sa parole, on retrouve tout cela, et dans sa présence aussi. Donc, tout ce que nous voyons maintenant, tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, plutôt dans la parole de Dieu, est important pour maintenant. Pour maintenant, de pouvoir nous-mêmes être en paix, être dans l'assurance que le Seigneur est en contrôle. Comme nous avons vu dimanche, que le Seigneur envoie le secours, et le Seigneur est ce secours. Et donc, que son Église, que nous soyons, nous premièrement, dans cette assurance-là, pour pouvoir par la suite aller vers d'autres et fortifier des frères, consoler des frères, encourager des frères, mais aussi témoigner à des âmes qui aujourd'hui, déjà dans, où est-ce que nous sommes dans la saison, le voient très difficile. Et on a juste à penser à que en fin de semaine, on va changer l'heure. Il va faire encore plus noir, plus tôt. Et la neige qui s'en vient, le froid, bref. Des choses que pour l'être humain peuvent être difficiles et peuvent alourdir une pensée qui est déjà angoissée, qui est déjà préoccupée par tout ce qui se passe. Alors prions. Gardons nos frères, nos bien-aimés en prière. Il y en a certains qui vivent seuls, qui n'ont pas beaucoup de contact avec d'autres personnes depuis le début de la pandémie. Faisons notre travail d'aller, de contacter, de prendre des nouvelles, de prier pour ces personnes, de prier avec ces personnes-là aussi. Je pense que c'est important et ça va l'être encore plus avec les semaines qui vont avancer. Déjà, on a vu le gouvernement annoncer un prolongement ou une prolongation des mesures qui avaient été établies pour les 28 premiers jours. Ça a été repoussé pour 4 semaines. Déjà, ça, c'est une mauvaise nouvelle pour l'ensemble de la population. Et pour sûr, il y a des gens qui prennent ça beaucoup plus difficile que d'autres. Alors, prions tous et élevons la voix. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, parce que nous sommes en toi. Seigneur, parce que ta parole dit qu'en toi, Seigneur, nous sommes parfaits. Nous sommes pleinement satisfaits. Qu'il n'y a aucun besoin, aucune nécessité et aucune raison d'aller voir ailleurs, de rechercher ailleurs. Parce que tu es le chemin, tu es la vérité et tu es la vie, Seigneur. Tu es la vie en abondance que nous expérimentons. Tu es la joie, tu es la paix, tu es l'amour, tu es tout ce dont nous avons besoin, tout ce que l'être humain a, aurait tellement besoin aujourd'hui, Seigneur. Tout ce que dont l'Église aurait tellement besoin aujourd'hui, Seigneur, tu es cela. Alors merci. Merci d'inonder nos cœurs de ta paix, de ta joie, de ton amour, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous permettre de voir au-delà des circonstances, de voir le secours de Dieu, de voir la réponse de Dieu, de voir la fidélité de Dieu, de pouvoir en témoigner à d'autres, Seigneur, qui sont dans le besoin, à d'autres qui vont être dans le besoin dans quelques semaines ou plus tard. Donne-nous ce discernement, cette compassion, Seigneur, de pouvoir servir ces gens et de te servir comme il se doit, comme, Seigneur, tu nous enseignes de servir. Merci pour cette soirée, pour les gens qui sont déjà là connectés, qui vont recevoir ta parole, pour ceux, Seigneur, qui vont l'écouter en différé, Seigneur, que ta bénédiction soit fraîche sur leur vie également et que tu puisses m'utiliser comme tu le sens, Seigneur, de le faire avec les pensées, la direction dans les paroles, dans les idées, dans tout, Seigneur. Tout est soumis à toi. Tout est sous ton contrôle, Seigneur, afin que tu sois glorifié. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, allons dans la parole de Dieu. Donc, nous poursuivons dans Marc. Et cette fois-ci, nous commençons un nouveau chapitre. Yay! Commençons le chapitre 7. Donc, Marc, chapitre 7. Nous allons lire les 13 premiers versets ce soir. Les pharisiens et quelques scribes de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage de coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes qui lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? » Jésus leur répondit, « Hypocrite! Ésaïe avait bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous, vous dites, « Si un homme dit à son père ou à sa mère, « Ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus et la tradition. Et on va voir qu'il y a des nuances, il y a des liens qu'on peut faire avec la vie de service à laquelle Dieu nous appelle et qui représente également des défis pour nous. Mais en tout premier lieu, faisons juste un bref retour sur la session précédente. Donc la semaine dernière, nous avions terminé le dernier passage dans le chapitre 6. Et on a vu dans le fond que le chapitre 6 est un, si on fait le bilan, on voit que c'est un chapitre qui est riche, qui est profond en leçons, mais aussi en événements dans la vie de Jésus qui nous parle et auquel nous également on peut s'identifier. On a vu que la vie est constituée d'une série d'événements et d'épreuves. Et chacune de ces épreuves requiert des transitions dans nos vies, des changements, chacune de ces étapes. Et on avait mentionné que à plusieurs reprises, Jésus et ses disciples traversaient la mer pour se rendre quelque part. Et à chaque fois qu'ils se rendaient quelque part, il y avait des gens à servir. Il y avait des gens à qui Jésus touchait, des gens, des vies que Jésus touchait. Et ça nous amenait à réfléchir sur les situations que nous vivons, les circonstances que nous appelons la vie. Et ces étapes qui nous amènent des fois à des endroits, nous amènent à être en contact avec des gens qu'autrement on ne serait jamais été en contact avec eux, et que là, Dieu veut qu'on serve. Et que contrairement à ce qu'on entend bien souvent, contrairement à ce qui est enseigné, bien des fois, nous, ce qu'on entend, c'est plutôt que on va passer à une autre phase, à une autre dimension, et là, on va recevoir une bénédiction, on va recevoir une révélation, on va recevoir plus d'onction. Donc, comme à chaque fois qu'on traverse une étape, une phase, bien, il y a quelque chose qui nous attend à nous. Alors que Jésus, à chaque fois qu'il traversait la mer, qu'il allait vers un autre endroit, vers une autre étape, bien, c'est d'autres personnes qui l'attendaient. Et de revoir un peu cette perception qui est très forte, très, très, très forte dans la chrétienté aujourd'hui, de moi, 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 qu'est-ce que Dieu a pour moi, mon ministère, mon appel, ma prophétie, ma vision, mon onction, ma bénédiction, ma révélation, ma prospérité, mon ci, mon ça, puis, mais Dieu, mais c'est même pas pour ça qu'il t'a amené là, c'est même pas pour toi qu'il t'a amené, qui t'a fait passer pour toutes ces étapes-là. Oui, tu as des leçons, ta foi grandit, gloire à Dieu, mais il y a des gens qu'il faut servir. Et les situations de la vie, les circonstances et les épreuves nous amènent là. Et ça nous poussait également à réfléchir et à même prier différemment pour dire, Seigneur, où est-ce que tu m'amènes? À travers ces moments difficiles que je vis, Seigneur, où est-ce que tu es en train de m'amener? Vers qui? Seigneur, tu m'amènes. Qui sont les gens qui m'attendent de l'autre côté, Seigneur, de cette épreuve ou de cette étape ou de cette transition? Nous avons vu que l'ouvrier, le serviteur, c'est quelqu'un qui doit être éprouvé. Et le terme grec pour éprouver, c'est dokimos, qui est illustré par le travail de fabrication des monnaies de métal à l'époque. Et qu'à l'époque, lorsqu'on faisait fondre le métal, on le mettait dans des moules. Et quand le métal refroidissait, il fallait gratter la monnaie pour qu'elle soit au bon poids, pour qu'elle ait la bonne dimension. Mais il y avait des gens qui étaient voleurs, dans le fond, étaient fraudeurs. Il rognait un petit peu plus le métal pour en récupérer, pour pouvoir faire d'autres monnaies. Et ça faisait en sorte que ces monnaies devenaient fausses. Ils étaient quand même en circulation. Et juste à Athènes, sur une période de 100 ans, il y a eu à peu près 80 lois qui ont été votées, instituées pour essayer de contrecarrer cette pratique qui était illégale. Mais il y avait des hommes qui avaient le travail de peser les monnaies, de les tester, de les mettre à l'épreuve, donc de les éprouver. Et ces hommes-là, on les appelait les dokimos. Et on avait vu que dans le fond, Dieu est notre dokimos, celui qui nous prend et qui nous pèse. Dans le livre de Daniel, Dieu pèse un roi et voit que ce roi-là, ne vaut rien dans la balance, dans le fond. Et cette nuit-là même, son royaume tombe. Tout ça pour dire que Dieu est celui qui nous éprouve. Et les situations, les circonstances que nous vivons servent également à que toi et moi, nous soyons éprouvés, soyons encore meilleurs pour le service et que nous soyons en mesure de servir encore plus. Donc voilà pour le résumé de la semaine dernière. Donc, allons maintenant au chapitre 7. Et là, si vous remarquez, il y a comme un arrêt dans la cadence, dans le rythme, pas mal effréné, pas mal accéléré qu'on avait vu les autres chapitres, parce que là, c'est pas, on ne retrouve pas aussitôt et tout de suite après, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Non. On dirait qu'il y a comme un certain moment de calme. Merci Seigneur pour ce calme. Et autre chose, c'est que on voit que maintenant les disciples sont en train de manger. Chose que, au chapitre 6, là, ils n'avaient même pas le temps de manger, même pas le temps de se reposer. On dirait que là, au chapitre 7, on est passé une autre étape. Puis ils sont en train de manger. Mais le fait de manger suscite un scandale, suscite une problématique, un malaise parmi les Juifs. Et on pose certaines questions à Jésus. Ce qu'il faut remarquer ici, c'est que, eh bien, les pharisiens et les scribes qui se sont présentés à Jésus, ils venaient de Jérusalem. Donc, Galilée, qui dans le fond était d'aucun intérêt d'un point de vue économique, culturel, politique pour Jérusalem, ben là, tout d'un coup, Galilée devient intéressante à cause de tout le ministère, tout le service de Jésus-Christ. Et là, ça attire l'attention des pharisiens et des scribes de Jérusalem qui envoient une délégation pour aller voir sur le terrain qu'est-ce qui est en train de se passer, qui est ce Jésus dont ils entendent qu'il fait des miracles et qu'il enseigne des choses bizarres. Donc, ils se rendent à visite auprès de Jésus et puis là, ils remarquent quelque chose. Mais avant, on va parler un peu des pharisiens et des scribes. Qui sont les pharisiens? Qui sont les scribes? Donc, les pharisiens, c'est une secte. C'est pas une tribu. C'est pas une des tribus d'Israël. C'est pas de la tribu de Lévi. Les pharisiens, c'est une secte ultra-religieuse. Eux, normalement, c'était pas nécessairement des gens qui, par ligne de sang, avaient accès au temple ou au service dans le temple. Mais c'était des gens qui avaient un zèle, un ultra-zèle. C'était des ultra-religieux qui accordaient une importance absolue à la loi, mais non seulement à la loi, mais aussi à la tradition et à la pureté par différents rituels, par différentes action à prendre. Donc pour eux, le concept de pureté, d'impureté était vraiment au centre de leur vie. Et il y a quelques semaines en arrière, quand on parlait du miracle de la femme qui avait la perte de sang et de Jaïrus, qui lui était en train de perdre sa fille, on a parlé un petit peu comment fonctionnait la société à l'époque. Et que tout était basé sur le groupe des purs et le groupe des impurs. Donc, pour les pharisiens, eux, dans le fond, la pureté ou le concept de pureté devant Dieu était vraiment à la base, à l'essence même de leur vie. Et on dit qu'ils avaient pas moins de 600 préceptes à respecter, donc 365 interdictions ou restrictions. Et Jésus a eu beaucoup je dirais pas de confrontation, mais il y a eu beaucoup d'échanges avec eux dans lesquels Jésus leur faisait des remontrances et des reproches assez forts. Et vous allez comprendre pourquoi. Les scribes, eh bien, les scribes étaient des hommes dont la fonction principale était l'interprétation des Écritures, de la loi. Et de leur respect également de ces lois et l'enseignement des Écritures. Donc, eux, ils étaient un peu les gardiens des Écritures et s'assuraient, dans le fond, que les lois, les préceptes qui étaient dans les Écritures soient respectés. Les pharisiens avaient la loi, mais ils avaient autre chose. Les scribes, eux, principalement, avaient la parole de Dieu, bon, la loi, mais on va voir par la suite que également ils ont par la suite dévié vers d'autres choses. Jésus leur reprocha à eux de nuire à la foi des autres. Jésus va leur reprocher de mettre des fardeaux lourds sur les gens, de chercher à convertir les gens pour qu'après ça, ces gens-là même soient pires qu'eux et soient dans une condition encore plus misérable de ce qu'ils étaient avant. Une des choses que Matthieu, au chapitre 23, et il y a plusieurs reproches que Dieu fait aux pharisiens et aux scribes dans Matthieu chapitre 23, mais j'en ai juste retenu un qui dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Donc, aux yeux de Jésus, c'était clair. Même si ces hommes connaissaient la parole de Dieu, même si ces hommes étaient experts dans la loi, pouvaient te l'expliquer, pouvaient en faire la déclinaison, pouvaient te expliquer mot par mot, lettre par lettre, leur signification et faire toutes les ramifications qui pouvaient être possibles et imaginables entre la loi, les psaumes et les prophètes, eh bien, ces hommes-là n'étaient pas sauvés. Ces hommes-là étaient perdus. Et non seulement ils étaient perdus, mais ils bloquaient également, ils empêchaient par leur tradition, par leur zèle, par leur interprétation de la loi et par leur insistance à que ce soit fait à leur façon, eh bien, beaucoup de gens étaient induits en erreur et n'arrivaient pas à expérimenter la foi et expérimenter la grâce de Dieu. Donc, important de comprendre que par rapport à la loi, la position de Jésus et la position des scribes et des pharisiens étaient totalement opposées et étaient vraiment en contradiction. Mais pas tous les scribes, ça qu'il faut comprendre, c'est que pas tous les scribes, c'est pas parce que tu es scribe que tu es mauvais. C'est pas parce que tu es scribe que tu es contre Jésus, tu étais contre Jésus ou tu étais contre Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait les scribes étaient là aussi, il y avait ce rôle de la transcription de la loi, de respecter, d'aimer la loi, d'être passionné par la loi et d'enseigner les Écritures aussi au peuple pour que le peuple également puisse connaître la parole de Dieu. Un des scribes très connus et qui joue un rôle important dans l'histoire d'Israël, c'est le scribe Esdras. Et on retrouve un peu son implication, son rôle dans l'histoire d'Israël, dans le livre d'Esdras et dans le livre de Néhémie aussi. Et on voit qu'il joue un rôle important dans le retour de l'exil, le retour du peuple d'Israël, de la captivité de Babylone et de Perse. Et qu'également, il joue un rôle important dans la construction du temple, dans la construction des murailles et dans le retour au culte, le retour au culte à Dieu. Et une des choses que lui va établir dès le début, c'est de revenir à la parole de Dieu et en commençant par les sacrificateurs, donc en commençant par les hommes qui étaient appelés au service de Dieu, mais qui s'étaient souillés en prenant des femmes étrangères. Esdras rentre dans le problème pour justement s'assurer qu'il y ait un retour à la parole de Dieu, il y ait un retour au respect de ce que la loi disait. Donc, Esdras, c'est un personnage de la Bible qui est très intéressant à lire. Je vous invite à lire justement ces livres, Esdras et Néhémie. Donc, voilà, les scribes et les pharisiens dans l'époque de Jésus vont le visiter et là, tout de suite, ils remarquent un détail que normalement, plein d'autres personnes peut-être s'en seraient jamais rendu compte. Et les pharisiens, les religieux, les légalistes sont experts là-dedans. Dans les églises, c'est les gens qui vont spotter les, pardonnez-moi l'expression, mais qui vont remarquer immédiatement les défauts ou les choses qui ne sont pas faites correctement à leurs yeux, les choses qui ne suivent pas, ne respectent pas à leurs yeux encore, à leur interprétation de la parole de Dieu, qui ne respectent pas la parole de Dieu et qui remarquent toujours l'erreur ou le défaut ou la chose que telle personne a dit ou le vêtement que telle autre personne avait ou le geste que telle personne a posé. Ils sont très bons là-dedans. Et dans le cas de Jésus, eh bien, ils ont remarqué immédiatement que les disciples, lorsqu'ils se sont assis à manger, et merci Seigneur parce qu'ils ont pu s'asseoir pour manger, eh bien, ils n'ont pas respecté la tradition du lavement des mains. Puis il faut bien remarquer ici, il faut bien comprendre, le fait que la Bible ici dit qu'ils étaient impurs, qu'ils avaient les mains impures, c'est pas qu'ils ne se sont pas lavés les mains. C'est pas qu'ils avaient tellement faim, ça faisait des jours qu'ils ne mangeaient pas, qu'ils ont vu les repas puis ils se sont tout de suite lancés sur les repas pour manger. Non, c'était pas ça, là. Ils se sont lavés les mains, sauf qu'ils ne l'ont pas fait en suivant le rituel ou le précepte qui avait été établi, non pas dans la loi, mais dans la tradition. Et ça, on va en parler, OK, de la tradition. Donc, c'est pas que, puis en plus dans le temps qu'on vit aujourd'hui, le lavage de mains est devenu aussi sacré, si on peut dire. C'est devenu aussi sacré qu'à l'époque des pharisiens et des scribes. Nous, je pense qu'on n'aurait pas de problème à cette époque-là, parce que le purel t'arrange tout. mais bon, juste pour dire dans le fond que c'est pas qu'ils se sont pas lavés les mains, puis que là, hein, les disciples sont donc bien sales. Non, 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 c'est plutôt qu'ils n'ont pas respecté la tradition et le rituel pour le lavement des mains. Et c'est ce qu'ils disent au verset 5. « Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? » Et c'est important que les scribes et les pharisiens ont bien dit la tradition des anciens. Ils n'ont pas dit la loi de Moïse. Ou ils n'ont pas dit le Pentateuch. Ils ont bien parlé de la tradition des anciens. Quelle est cette tradition-là des anciens? Eh bien, il faut comprendre que pour les Juifs, il y a la loi, principalement et fondamentalement, qui a été donnée à Moïse. Donc, dès la naissance, dans le fond, de cette nation, lorsque Dieu les a fait sortir d'Égypte, Dieu donne la loi. Et dans cette loi-là, eh bien, ce qui comprend la loi pour le juif, c'est les 10 commandements. Et ce sont toutes les prescriptions et les directives qui se trouvent dans les 5 premiers livres de la Bible, qu'on appelle également le Pentateuque. Donc, tout ce qu'on retrouve là-dedans, dans ces livres-là, y compris les 10 commandements, représente la loi pour le juif. Et Dieu a établi cette loi-là, pour ces préceptes-là, pour que le peuple juif puisse vivre une vie séparée du monde en préparation à la venue du Messie qui allait restaurer toutes choses. Mais voilà que vers le 4e, vers le 5e siècle, avant Jésus-Christ, il y a des scribes, donc à peu près à l'époque où est-ce que le peuple est revenu de captivité, il y a eu dans le fond un zèle qui a pris naissance, un mouvement très nationaliste à la base, pour préserver dans le fond la culture judaïque, et de préserver également la loi ou l'interprétation de la loi pour éviter que, dans le fond, on retombe en captivité et tout ça, parce que quand même le peuple d'Israël a été amené en captivité dans le Babylone, en Perse. c'était des peuples avec des cultures religieuses et des cultures en tant que peuple beaucoup, beaucoup plus fortes. Donc, la culture hébraïque était mise en danger et des scribes ont voulu essayer de préserver ou d'empêcher plutôt que cela se répète. Mais dans ce mouvement-là, qui avait une fibre nationaliste, qui avait une fibre également extrémiste jusqu'à un certain point, il y a eu des scribes qui ont voulu pousser les préceptes et les directives qu'on retrouvait dans la loi, ont voulu l'amener plus loin, ont voulu l'amener à une autre dimension. Une dimension dans laquelle toutes les situations de la vie étaient régies par une loi, par une règle, par une ordonnance, par un précepte. Et quand on parle de toutes les situations de la vie, c'est toutes les situations de la vie. Ils sont vraiment allés loin dans leur désir de vouloir mettre des règles et des préceptes à appliquer, des rituels, des cérémonies pour toutes les situations de la vie. Cette série de préceptes, c'est ce qui a été appelé la loi, la tradition orale ou la loi orale ou la tradition des anciens. Et plus tard, beaucoup plus tard, c'est devenu la Mishnah. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas la loi. C'est comme une extension de la loi que les scribes ont voulu faire et qui était transmise de façon orale. C'est plusieurs siècles, beaucoup plus tard, qu'il y a eu des écrits qui ont capté tous ces préceptes-là. Mais au début et arrivé au temps de Jésus, eh bien, c'était une tradition qui était transmise oralement. Donc, d'où la tradition des anciens, ou également, comme on l'appelait, la loi orale. Donc, dans cette loi-là, il y avait un rituel ou une cérémonie pour le lavement des mains. Donc, avant de pouvoir s'asseoir et manger, eh bien, l'homme devait suivre un certain rituel qui, dans le fond, grosso modo, c'est que les mains en premier devaient être placées avec les doigts vers le haut et il y avait de l'eau qui était réservée pour le lavement des mains, justement dans des vases qui étaient réservés pour le lavement des mains. Et on versait un petit peu d'eau et par la suite avec le poignet de l'autre main, on frottait et ainsi de suite. Et par la suite, on replaçait les mains devant, mais cette fois-ci avec les doigts vers le bas et on versait encore de l'eau pour laisser tomber tout le restant de saleté. Grosso modo, là, c'est beaucoup plus complexe que ça, là. Mais juste pour vous dire, c'est à peu près les grandes lignes de en quoi consistait cette cérémonie-là. Donc, les pharisiens voient ça, et là, ils portent des accusations envers les disciples. Je m'excuse, je vais ouvrir la bouteille parce que j'ai soif. Et les pharisiens, donc, ils portent des accusations envers les disciples en disant, ben, ils ont les mains impures. Et le terme grec pour impur qui est utilisé ici, c'est koinos. Et koinos veut dire trois choses. Parle de quelque chose qui est commun, parle de quelque chose qui est profane, donc qui n'a rien de sacré, qui n'a rien de saint, et parle de quelqu'un ou de quelque chose qui est souillé. Donc, s'il est souillé, encore là, aux yeux des pharisiens ou des scribes, qui est inapte, inadéquat, disqualifié, dans l'impossibilité de pouvoir participer au service à Dieu. Donc, lorsque les pharisiens, les scribes ont vu les disciples et se sont adressés à Jésus, ils leur ont dit, dans le fond, pourquoi est-ce que tes disciples sont souillés? Sont souillés dans l'état, sont dans un état qui ne peuvent pas servir Dieu. Et c'est beaucoup plus grave parce que, donc, faillir à ce rituel-là, c'était la même chose que, c'était pire qu'un péché à leurs yeux. Cela signifiait que on était impur, que la personne était impure aux yeux de Dieu. Faillir à ce rituel-là de lavement des mains c'était la même chose, et ça c'est sans exagérer, comme si on avait de l'excrément dans les mains. C'était fort le malaise ou l'insulte ou l'offense pour les scribes et pour les pharisiens de voir quelqu'un qui ne respectait pas ce rituel-là. Donc, automatiquement, cette personne-là ne pouvait pas servir Dieu, ne pouvait pas adorer Dieu. Et on disait même que cette personne-là était destinée, était maudite à être pauvre. Et elle était également condamnée à être tourmentée par des démons, par des esprits impurs. Donc, imagine un petit peu la perception des pharisiens et des scribes lorsqu'ils voient les disciples. Lorsqu'ils posent cette question-là à Jésus, ils ne sont pas en train de faire une interrogation pour dire « Je m'excuse Jésus, j'ai une petite question, je veux savoir. » Non. Leur question portait une accusation et un jugement assez fort parce qu'il était en train de leur dire que ces disciples-là étaient impurs et ce qu'ils étaient en train de faire était une abomination envers Dieu qui les rendait inaptes à servir Dieu. Mais pire que ça, c'était que ce qu'ils faisaient, c'est comme s'ils prenaient des excréments dans leurs mains. Ils étaient aussi impurs que de prendre de l'excrément avec leurs mains et d'être totalement profanes et complètement souillés et qu'ils étaient maudits même, donc qu'il y avait une condamnation qui couvrait tout l'aspect de leur vie, donc économiquement, socialement, mais aussi spirituellement, parce qu'on parlait justement qu'il y avait, donc, la croyance était que des esprits viendraient tourmenter ces gens-là. Donc, c'est un moment de tension, là, parce que là, le malaise est là, le malaise est dans la place. Jésus et les disciples voulaient un temps tranquille pour manger, mais là, on peut dire bye-bye. Parce que les scribes et les pharisiens viennent gâcher un peu la soirée. Et là, ça met la lumière sur Jésus. Parce que Jésus connaissait les traditions, Jésus connaissait la loi, Jésus était conscient que ses disciples n'avaient pas respecté ou n'avaient pas suivi la tradition orale. Donc, qu'est-ce que Jésus allait répondre? Qu'est-ce que Jésus allait dire comme réponse à ses disciples? Et on le voit dans le verset 6. Lorsqu'il leur dit, au verset 6, Jésus leur répondit, « Hypocrite! Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Là, Jésus, au lieu de la jouer calme, d'essayer d'apaiser la chose, puis de pas trop attiser l'affaire, puis que essayons de sauver la soirée. Essayons de sauver le souper. Mais non, Jésus intervient parce qu'il sait le danger. Il sait ce qui est en train d'arriver. Et il sait qu'il doit protéger également ses disciples. Donc, il ne va pas de main morte. Et lui, il va avec un reproche assez fort et assez dur pour un pharisien et pour un scribe d'entendre. Le fait que ils disent hypocrite, Aujourd'hui, des fois, on peut employer ces termes-là et ça passe plus ou moins. Plus ou moins. Mais pour un pharisien, pour un scribe, de se faire traiter d'hypocrite, c'était fort, là. Lui qui pensait être collé à la loi, lui qui pensait être collé à Dieu, lui qui pensait être même un instrument de Dieu, un serviteur de Dieu, voilà qui se fait traiter d'hypocrite. Mais allons voir qu'est-ce qu'hypocrite veut dire. Dans le grec, le terme utilisé ici, c'est hypocrites. Et hypocrites fait référence à quelqu'un qui donne une réplique, mais qui donne une réplique dans un acte de théâtre, dans un acte d'acte public. Okay? C'est quelqu'un qui interprète quelque chose. Mais c'est aussi un acteur, un joueur de théâtre. C'est ça, hypocrites. Fait que là, quand Jésus leur dit, vous, bande d'hypocrites, il est en train de le dire, vous êtes juste des acteurs, vous. Vous êtes des menteurs. Vous vivez une fausseté. Parce que vous dites que vous êtes pur. Vous dites que vous respectez la loi et les traditions. Et ça fait de vous des gens purs. N'oubliez pas, pour eux, le concept de pureté était à l'essence, à la base même de la vie. Donc, pour eux, le but ultime était d'être pur, de ne pas se retrouver, de ne pas avoir aucune faille dans leur vie qui leur permettrait d'être associés ou d'être identifiés à quelconque pureté, même dans un plus petit degré, là, c'était non, on ne pouvait pas l'accepter. Donc, ils vivaient une vie pas mal intense, pas mal extrême. Et donc là, Jésus est en train de leur dire, vous êtes des acteurs, parce que vous venez devant moi jouer la comédie. Moi, je vous connais, je connais votre cœur. Vous, vous vous présentez devant moi avec votre air religieux, votre air noble, votre air de vertu, pensant que vous faites tout bien, que vous respectez la loi, que vous faites tout selon ce qui plaît à Dieu, et vous honorez Dieu avec votre bouche. Mais moi, je vois votre cœur, et Dieu voit votre cœur, et votre cœur est noir de péché. Votre cœur, c'est une poubelle de péché, d'abomination. Et même si vous êtes pur à l'extérieur, à l'intérieur, vous êtes assurément impur. Donc, vous êtes une gang d'acteurs et de comédiens. Ouais, Jésus. Pas pire comme réplique, hein? Et il dit quelque chose d'autre. Donc, voici le premier reproche qu'il leur fait. Il leur dit, vous êtes faux. Vous êtes faux, vous êtes menteurs. Vous vous appliquez à respecter la loi, mais en autant que aux yeux des autres, vous ayez l'air pur. Et vous savez, à l'église, il y a des gens qui viennent comme ça, avec la même mentalité. Et une fois, j'ai eu une discussion avec un bien-aimé qui allait dans une autre église, beaucoup, beaucoup plus stricte, beaucoup plus légaliste. Et je lui disais, le problème, un des problèmes que vous avez, c'est que, en autant que les gens viennent et qu'ils respectent le code, qu'ils respectent la tradition qui vous a été transmise, cette personne-là est acceptée et cette personne-là est acceptable au sein de la communauté. Mais elle peut faire ce qu'elle veut le reste de la semaine. Elle peut vivre dans la débauche, elle peut faire toutes les perversions, elle peut vivre toutes les abominations, mais parce que vous avez établi comme standard que voici le code qui doit être respecté, code vestimentaire et toute autre sorte de code également, la personne se dit, en autant que je respecte extérieurement ce qu'on s'attend de moi, le reste. Et il y a des gens dans l'Église qui ont cette foi-là, ont cette perception-là que, en autant que je fasse les choses, en autant que je pratique ce que les autres font, que j'imite ce que les autres font, en autant que je fais ce qui doit être fait dans une église, bien, je suis correct. Je suis accepté. Je fais partie du corps de Christ. Et je prends part à la sainteté. Je prends part à la vie de la foi. Je prends part à la vie de l'esprit qui est dans le peuple. Et c'est juste une bande d'acteurs. Et on va le voir la semaine prochaine. Cette semaine, on voit vraiment des obstacles externes qui empêchent le service, mais la semaine prochaine, on va parler des obstacles qui sont internes. Et on va voir que Jésus est très spécifique aussi sur l'état du cœur. Et Jésus a commencé par s'adresser aux pharisiens en leur parlant justement, vous, votre problème, c'est que vous êtes juste dans l'apparence. Mais dans l'autre portion, il s'adresse aux disciples et il leur parle de l'importance de ce qu'il y a à l'intérieur. Mais bref, ça, on va en voir la semaine prochaine. Mais tout ça pour vous dire que l'hypocrisie dans l'Église, c'était présent à l'époque, c'est encore présent aujourd'hui. Des personnes qui ne sont pas vraies, qui viennent à l'Église, qui font le jeu de l'Église, qui jouent à l'Église dans le fond, mais qui le reste de la semaine, c'est carrément une autre personne. C'est carrément une autre personne. Donc, voici le premier reproche qu'il le fait. Deuxième reproche, on le voit au verset 8, quand il dit, « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Et il va plus loin encore, il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Notez une chose, il parle de commandement de Dieu. C'est quoi le commandement de Dieu? Est-ce que c'est la loi? Est-ce qu'il fait référence à la loi? Jésus parle bien de c'est quoi le commandement de Dieu. Dans Marc chapitre 12, verset 30 et 31, il dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » Et voici le second, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. » Quel est le commandement de Dieu? Ben, c'est ça. Tu vas aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc, ce que Jésus est en train de dire aux disciples, c'est que, pas aux disciples, mais aux pharisiens, aux scribes, il est en train de leur dire, mes amis, ben pas mes amis, mais bande d'acteurs, vous êtes en train d'annuler ce commandement-là. Ce que vous êtes en train d'imposer, tous vos rituels, vos préceptes, toutes vos ordonnances, là, qui ne sont même pas dans la parole de Dieu, vous avez voulu faire une extension de ça, puis vous l'imposez à tout le monde. Et vous dites, voici la façon comment faire, voici comment on peut s'approcher de Dieu, voici comment est-ce qu'on peut être comme Dieu, dans le fond, et participer à ce que Dieu fait, ben, c'est la seule façon. Et Jésus dit, mais le commandement de Dieu n'est pas là-dedans. Le commandement de Dieu, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Donc, remarquez une chose, c'est que Jésus dit, vous abandonnez. Et par la suite, il dit, vous anéantissez. C'est-à-dire, par vos traditions, par ce qui vous a été inculqué, par votre qui est devenu culturel, parce qu'avec le temps, on parle de 400 ans, 500 ans, donc ces préceptes sont devenus la culture de ce peuple-là. Ils ont dit, par votre culture, ben vous abandonnez, c'est-à-dire que vous ne prenez pas en considération ce que Jésus a dit, ce que Dieu dit. Et même si vous faites les choses au nom de Dieu, ben vous ne suivez pas ce que Dieu a dit. Et deux, c'est que vous l'anéantissez, c'est-à-dire que vous le rendez sans effet. Vous rendez la parole de Dieu nulle. Donc, c'est quand même assez fort comme reproche que Jésus leur fait. Par la suite, au verset 10, il leur dit, il leur parle de Moïse, il leur parle d'un commandement qui avait été établi qui concerne les parents. Et là, dans le fond, Jésus présente un exemple pour montrer une mise en situation où est-ce que la tradition vient causer des problèmes. Et on va le développer ça un petit peu plus. Au verset 10, il dit, car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père, pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Il y a un mot que j'ai découvert durant la semaine, c'est le mot corban. Je suis allé voir qu'est-ce que ça voulait dire, corban. Et j'ai réalisé que corban, on pourrait le convertir en verbe. Et que parfois, nous avons ce geste, nous avons cette action de corbaniser les choses ou de corbaniser les gens, qui est différent de carboniser. Mais ça a pas mal le même effet, dans le fond. Pas mal le même effet. Dans le grec, corban ou corbanas veut dire offrande ou don offert à Dieu. Mais on dit que c'est une offrande qui est déjà sur l'autel de Dieu. Donc, c'est quelque chose qui a déjà été donné, qui a déjà été déposé à l'autel. Et que, étant déjà là, il ne pouvait plus servir à autre chose. Quelque chose qui a été déposé à l'autel de Dieu, tu ne vas pas le prendre pour l'utiliser à autre chose. Donc, il a été déposé là, ça reste là, il ne peut pas servir à autre chose qu'à Dieu, comme une offrande à Dieu. Et si quelque chose était déclaré corban, donc exclusif à Dieu, comme je disais, cela ne pouvait pas servir à rien d'autre. Le problème, c'est que les pharisiens et les scribes ont amené ça à un autre niveau, là. Et je vais vous donner comme exemple. Quand, par exemple, vous me devez de l'argent, tu as une dette envers moi, puis moi, je dis, la dette maintenant, elle est corban, ou je vais corbaniser la dette, ça pouvait dire deux choses. Premièrement, ça pouvait dire que maintenant, la dette, elle n'est plus à moi. En fait, c'est plus à moi que tu dois payer, mais tu dois payer à Dieu. Donc, au lieu de me rembourser à moi, donne une offrande au temple et c'est réglé. Donc ça, c'est correct. Mais il y avait une autre interprétation de Corban que c'était, moi, je veux me faire payer. Là, je suis fatigué d'attendre. C'est bientôt Noël, il faut de l'argent, donc moi je veux être payé. Fait que là je vais aller te voir et je vais te dire, la dette est maintenant corban. Dans le sens que tu me dois quelque chose, mais c'est comme si tu le dois à Dieu. Donc tu sais, tu ne vas pas laisser Dieu languir, t'sais, tu ne vas pas laisser Dieu attendre son paiement. Fait que paye, je veux que tu payes là. Et c'était une forme de chantage, dans le fond. C'était une forme de mettre la pression sur la pauvre personne qui devait ramasser l'argent si elle ne l'avait pas, qui était peut-être, ça allait la mettre encore plus en problème pour rembourser une dette. Ça va plus loin que ça. Il y a des gens qui pouvaient déclarer d'autres personnes corban. Je vais décider de corbaniser mon frère Gilles, par exemple. Je vais déclarer que entre moi et lui, c'est corban. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plusieurs choses. Ça peut dire que tout ce qui est à moi, il n'y a rien de ce qui est à moi, de ce qui m'appartient, en totalité ou en partie, qui va servir à aider, à venir au soutien ou à partager avec lui. Je ne vais rien partager avec lui. Donc, je me refuse de partager en partie ou en totalité, ne serait-ce que la plus petite chose qui m'appartienne, Et même si lui est dans le besoin, même si lui est dans une nécessité et que moi je suis le seul à pouvoir l'aider, parce que j'ai déclaré que c'était corban entre nous, je ne l'aiderai pas. Ça va dans l'autre sens aussi. Moi, je peux déclarer, encore là, je peux dire, je vais corbaniser mon frère Gilles, mais ça va être dans l'autre sens, dans le sens où je veux absolument rien avoir à faire avec lui. Donc, si lui veut me prêter, me donner quelque chose ou me partager quelque chose, ça va être un non catégorique. Il est interdit dans ma vie de faire, d'avoir n'importe quelle association, n'importe quel genre avec Gilles. Donc, voyez où est-ce que ça s'en va? Ça dégénère pas mal la chose. Et c'était des pratiques qui étaient courantes. Donc, si par exemple, quelqu'un qui avait des parents et qui dit, ben moi ce que j'ai, mettons, il est fâché après son père, après sa mère, il y a une discussion, puis là, il déclare qu'entre eux, c'est corban. Et puis que quelques temps plus tard, les parents sont dans le besoin. Mais lui, parce qu'il a déclaré corban, il ne peut pas l'aider. Mais même si lui se repent aussi, lui revient de sa décision, puis il dit, ben dans le fond, je l'ai dit sur un coup de tête, excuse-moi, c'est les émotions qui ont parlé, j'aurais pas dû dire ça, je m'excuse, ok, je vais vous aider. Là, les pharisiens puis les scribes seraient avenus, là, la police serait descendue, puis il aurait dit, mon gars, tu as déclaré c'était corban. Tu ne peux plus revenir sur cette décision-là. Fait que même si tes parents sont dans le besoin, puis que toi, tu as la possibilité d'aider, parce que c'est corban, tu ne peux pas les aider. Vous voyez comment ça, comment ça dresse un beau portrait de société. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui sont allés à l'extrême, sont devenus des extrémistes religieux. Et l'Église et nous, en tant que chrétiens, qui avons été libérés, qui avons été affranchis du péché, de l'esclavage et de tout ça, bien, il y a toujours ce risque-là de vivre ou de rentrer dans certains concepts de corban ou de tradition qui vont juste nous pénaliser ou qui vont pénaliser d'autres personnes. Et qui vont nous priver de servir des gens, qui vont nous priver d'aider des gens, et des gens qui vont être dans le besoin. Mais parce que dans notre cœur, on a dit, c'est corban de toi et moi, bien même si je peux t'aider, je ne le ferai pas. Et peut-être que je le ferai, mais je le ferai juste comme un acteur. C'est-à-dire, je vais le faire, je vais t'aider. Mais je vais t'aider parce que la congrégation me voit. Je vais t'aider parce que, tu sais, les gens vont me voir. Puis ils vont dire, ah, tu sais, c'est un bon chrétien, lui. C'est un bon gars, tu sais, il a aidé la personne qui était dans le besoin. Même si on sait qu'il y a eu, un froid entre eux, même s'il y a eu une différence entre eux, il y a eu une querelle, puis je ne sais pas, ils ne se sont pas parlé pendant longtemps, mais voilà, qu'il est dans le besoin, puis lui, il vient. Mais Dieu voit la motivation du cœur. Puis il sait si on est juste en train de jouer la comédie. Ou si vraiment on le fait avec un cœur comme celui de Jésus. Un cœur qui était rempli d'amour, de compassion pour tous les hommes, pour toutes les personnes. Donc, de là, c'est l'importance de s'interroger soi-même sur qu'est-ce qu'on fait et pourquoi est-ce qu'on le fait. Il y a beaucoup de monde qui viennent dans les églises et qui sont des acteurs. Et malheureusement, même en tant que chrétiens établis, membres, qui sommes des vrais croyants, des gens de foi, ça nous arrive des fois de servir, d'aider des gens, mais de le faire juste pour l'apparence. De le faire juste pour sauver la face. De le faire parce que si on ne le fait pas, on va être jugé. Parce que si on ne le fait pas, les gens vont se poser des questions par rapport à nous. Donc, c'est même pas pour, on ne le fait même pas pour le bien de l'autre. On le fait parce qu'on a un intérêt personnel. Et pour ça, aux yeux de Dieu, aux yeux de Jésus, c'est de la comédie. C'est de la comédie. C'est faire du cinéma. Donc, ne soyons pas des acteurs. Soyons de vrais chrétiens. Soyons de vrais croyants. Le concept de corban est aussi très présent entre nous parce que des fois, il y a des gens qui nous font des choses. Il y a des fois des gens qui nous blessent dans la vie. Et puis nous, on dit, cette personne-là est barrée à vie de ma vie. Je barre cette personne à vie. Mais qu'est-ce qu'on fait, dans le fond, en disant ça, en disant, je ne veux plus rien avoir à faire avec cette personne-là? On est en train de corbaniser cette personne-là. On est en train de dire, je ne veux aucune espèce d'association avec cette personne-là. Je ne veux rien savoir d'elle. Si elle est en train de mourir, je m'en fous. Si elle est en train de passer par un bon moment, je m'en fous, puis peut-être même, tant mieux, après tout ce qu'elle m'a fait subir. Ben, mérité, c'est bien mérité. Fait que moi, je n'irai pas l'aider. Je vais rester ici les bras croisés. Puis Dieu s'arrangera d'une autre façon pour venir en aide à cette personne-là. Ça n'arrive pas, hein? Non, ça n'arrive pas. Pense pas. Ou peut-être que oui, ça arrive. Peut-être que ça arrive. Peut-être que ça arrive que par la culture, par le bagage de culture qu'on a, on corbanise d'autres cultures. Le racisme, c'est une façon de corbaniser les gens. La discrimination, c'est une façon de le faire. Il y a 20 ans de ça, puis, wow, 20 ans, ça ne me rajeunit pas, mais je suis encore jeune. Il y a 20 ans de ça, j'étais en voyage en Amérique du Sud. J'ai passé 3 semaines dans un pays, en Amérique latine, et mon père était un petit peu inquiet. Parce que il savait que lorsque je me rendais, il y avait une histoire conflictuelle entre le Chili et cette nation-là. Je suis d'origine chilienne. Donc, la première et la seule recommandation que mon père m'a fait avant de partir, c'est qu'il m'a dit, « Dis pas que tu es d'origine Chili. » OK. Je connaissais un peu le background historique. Il y a eu des guerres, et puis encore là, aujourd'hui, il y a de la rivalité sur à peu près tous les niveaux. Que ce soit au soccer, ou dans la gastronomie, peu importe, dans le folklore. Anyways. Et il y a parfois de l'hostilité, donc il me disait, fais attention, dis pas d'où tu sais quoi tes origines. Sauf que j'arrive là-bas, les gens voient que je parle espagnol. Donc ils me demandent, tu viens d'où? Et puis moi, je leur dis, je viens du Canada. Mais eux autres, comprennent bien, ils sont allés à l'école. Ils savent que Canada, c'est pas en Amérique latine. Donc, ils voient mes traits physiques, ils lisent mon nom, puis, ben non, c'est pas un Québécois, là. C'est pas Steve Tremblay, là. T'sais. Donc, ils me disent, ouais, mais t'es né au Canada, mais tes parents viennent d'où? Et là, je leur disais, bon, viens du Chili. Je le disais pas trop fort, où j'essayais de dévier la conversation un petit peu, mais faut que je vous dise aussi que j'étais parmi les chrétiens. Donc, je me disais, peut-être les chrétiens vont avoir un petit peu d'amour ou de miséricorde envers moi. Mais une chose que je peux vous dire, c'est qu'à aucun moment donné, j'ai senti parmi le peuple de Dieu, parmi les croyants avec qui j'étais, j'ai senti un mépris, où j'ai senti que d'une certaine façon, il y avait une espèce de corban envers moi ou qu'il y avait de la comédie, qu'il y avait juste de l'apparence. Ça a été des gens avec un grand cœur, avec l'amour de Dieu qui m'ont accueilli, qui ont pris soin de moi pendant 3 semaines et qui ont permis que j'ai pu avoir une très belle et une très riche expérience durant ce voyage-là. Je rends grâce à Dieu pour cet événement-là et pour ce que j'ai pu apprendre. Mais il y a des cas où est-ce que il y a malheureusement de la comédie dans les églises et il y a du corban où est-ce qu'on prive les gens et on se prive des autres. Et ça, ce n'est pas le caractère de Jésus, aucunement. Jésus nous dit de pardonner. Jésus nous dit que nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Et certains disent, ben, c'est une réconciliation qui va juste avec Dieu. Pas sûr. Je suis pas sûr. Je pense que Dieu veut qu'il est au milieu de son Église, mais également entre les hommes, qu'il y ait de la réconciliation aussi. Dieu dit, dans la parole, il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Une douceur qui va amener une réconciliation, une douceur qui va amener à ce qui est du partage, à ce qui est de l'échange entre les gens. Et qu'en tant que société, on puisse grandir et qu'on puisse être meilleur, dans le fond. Mais on ne grandira pas quand, dans notre cœur, on est faux. Quand on prétend quelque chose, mais en dedans, on est quelqu'un d'autre. Quand on dit aimer, mais que dans le fond, on n'aime pas. Quand on fait des preuves, on fait des gestes, des démonstrations de gentillesse, mais que dans le fond, dans notre cœur, il n'y a rien de gentillesse envers cette personne-là. On le fait juste pour d'autres intérêts. Jésus appelle ces gens-là hypocrites, acteurs. Et la tradition, la culture, les rudiments du monde nous bombardent dans ce sens-là. Et si on ne fait pas attention, eh bien, on va oublier, dans le fond, l'avertissement que l'apôtre Paul fait dans Colossiens chapitre 2, verset 8. Il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Dans le fond, Paul est en train de dire, il y a beaucoup de choses dans le monde. Il y a beaucoup de choses dans la pensée humaine qui va amener ce genre d'attitude, qui va amener ce genre de style de vie, si ce n'est pas centré sur Christ, Christ qui aime tout le monde, Christ qui aime véritablement tout le monde et qui s'est donné pour tout le monde, qui n'a pas été sélectif, qui n'a pas fait de favoritisme, qui n'a certainement pas fait la comédie, surtout sur la croix, ce n'était pas une comédie qu'il faisait. Ses douleurs étaient réelles, en portant nos péchés sur lui. Et il a interdit personne, il a privé personne de sa bénédiction, de sa grâce. Aujourd'hui, la personne la plus méchante, la pire personne sur terre, si cette personne-là ouvre son cœur à Jésus, Jésus va toucher sa vie et va changer sa vie. Et cette personne-là sera sauvée. Donc, qui sommes-nous pour mettre des barrières? Qui sommes-nous pour dire corban avec cette personne ou corban avec cette autre personne-là? Faisons attention. Demandons au Seigneur de sonder nos cœurs. Parce que ce qu'il y a dans le monde, c'est, comme je disais, s'il y a des éléments dans nos cultures, il y a les philosophies, il y a des valeurs du monde, il y a les fausses doctrines, les faux enseignements, il y a la superficialité aussi. Lorsqu'on est superficiel, on est croyant, mais de surface seulement. Mais quand on gratte un peu à l'intérieur, on se rend compte, ben, il n'y a rien ici, là. Il n'y a rien, il n'y a pas de foi vivante, il n'y a rien qui se passe. Faisons attention à ces choses-là. Et demandons au Seigneur, est-ce que notre cœur est vraiment attaché à ces choses? Est-ce qu'il y a des choses dans la tradition auxquelles nous on est attaché et qui, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être demain, va être un obstacle à que je puisse servir Dieu? Est-ce que je suis attaché, moi, aux rudiments du monde, aux valeurs du monde et pas à la parole de Dieu? Le monde s'en va dans une direction. Les mœurs, les valeurs sont en train de changer. Et de plus en plus, ça va aller de plus en plus vite. Est-ce que je suis attaché à ces choses-là, à ces courants qui sont dans le monde, ou est-ce que je suis attaché aux enseignements de Jésus? Donc, en présence de ces réalités-là qui sont dans le monde, on risque de tomber dans certains pièges, dont, comme je dis, d'être un acteur ou un hypocrite dans le service. Deux, d'abandonner la parole de Dieu. Troisièmement, de rendre la parole de Dieu sans effet. C'est-à-dire, aucune efficacité dans des situations où est-ce que, dans le fond, elle devrait être au cœur de nos pensées, de nos actions. Et finalement, de nous amener même à discriminer des personnes, discriminer une famille, discriminer un groupe de personnes. Voilà où ce que ça va nous amener. Et ça, ben c'est pas le service comme Jésus. C'est pas servir comme Jésus voulait qu'on serve et veut qu'on serve aujourd'hui. Il y a beaucoup de défis qui sont devant l'Église, avec la pandémie, avec les changements dans la société. De plus en plus de gens dans le besoin vont avoir la nécessité d'espoir, ne serait-ce qu'un peu d'espoir. Beaucoup de gens aujourd'hui ont besoin juste d'un peu d'encouragement, d'un peu d'espoir. Et toi, tu peux être cette personne-là qui a la ressource en toi de pouvoir aider. Le feras-tu si cette personne-là est différente à toi? Le feras-tu si cette personne a un style de vie qui est différent à toi? Le feras-tu si cette personne a des valeurs différentes aux tiennes? Le feras-tu si cette personne a une couleur de peau qui est différente à la tienne? Le feras-tu si cette personne a un accent ou mange avec des ingrédients qui sont différents aux tiens? Le feras-tu si cette personne t'a déjà fait du mal? Le feras-tu si cette personne te fait du mal présentement en peut-être calomniant ou en disant des choses contre toi? Le feras-tu? Le ferons-nous? Donc, en résumé, qu'est-ce que nous avons vu aujourd'hui? C'est que Jésus attire l'attention des pharisiens et des scribes qui accusent les disciples de ne pas respecter la tradition des anciens. On a vu c'était quoi la tradition des anciens, donc c'est juste une extension extrême, exagérée de la loi dans le but de régir ou de mettre sous ordonnance, sous règle, sous rituel, sous cérémonie, tous les aspects de la vie. On a vu qu'ici, les mains impures ou l'impureté à laquelle les scribes et les pharisiens faisaient allusion, c'était en lien avec le service à Dieu. Ils portaient un jugement en disant ce que tes disciples sont en train de faire, c'est la pire chose qu'ils pouvaient faire au monde. Puis ils sont exposés à de graves choses et surtout, ils sont inaptes, incompétents, impossible pour eux de participer au service. Mais Jésus leur a répondu, ben, vous êtes une bande d'acteurs et d'hypocrites. Vous êtes plus attachés à votre tradition, à que vous respectiez votre tradition, qu'à respecter la parole de Dieu. Et ça, c'est une bonne question pour nous. Est-ce que nous, on est plus attachés à notre culture, à les traditions qui sont dans nos cultures, à nos traditions qui ont été transmises de génération, ou à la parole de Dieu qui vit et qui règne éternellement? Corban, on a vu c'est quoi la notion de corban. Est-ce que ça a eu un effet néfaste à l'époque? Aujourd'hui, ça va certainement avoir un effet néfaste dans notre vie et dans le service que le Seigneur s'attend de nous. Donc, regardons cela. Demandons au Seigneur de sonder nos cœurs là, pour voir est-ce qu'il y en a. Est-ce qu'on on a mis des interdits avec des gens? Et pourquoi est-ce qu'on les a mis? Et peut-être il y a des interdits et vous leur demandez pourquoi ils ne se souviennent même plus. Ils ne se souviennent même plus pourquoi ils ont un froid, pourquoi ils sont en querelle, pourquoi ils ne parlent plus à cette personne-là. Ils ne s'en souviennent même plus. La seule chose qu'ils ont gardée, c'est cette émotion-là. Mais une émotion qui nuit à une vie épanouie. Une émotion qui nuit au développement spirituel de la personne. Et une émotion qui nuit à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Vraiment, on va faire ça à cause d'un sentiment ou à cause d'une émotion? Et donc, l'avertissement que Paul donnait aux Colossiens, elle est pour nous aussi de prendre garde, donc de veiller, d'être attentif, de ne pas être attaché aux traditions, aux choses. Parce que le courant dans le monde change, hein? C'est comme la mode. Ça va, ça vient, mais une chose qui reste ferme, solide pour nous et sur quoi on peut se fier jour et nuit, 24 heures sur 24, c'est la parole de Dieu. Donc, voilà pour cette semaine. La semaine prochaine, on va voir l'autre partie qui traite plus de ce qu'il y a à l'intérieur et qui, ça oui, souille l'homme et le souille, le rend pas mal impur. Donc, prions. Seigneur, on te rend grâce pour ce temps que nous avons eu ensemble. Merci pour toutes ces personnes, Seigneur, qui nous ont écoutés, Seigneur, en direct, ceux qui vont nous écouter, Seigneur, en différé. Je te demande que tu les bénisses, que tu les gardes, que là où ils sont, Seigneur, ils puissent sentir ta paix. Seigneur, on vit dans des temps difficiles, des temps où la dépression, le découragement, Seigneur, est en train de prendre de l'ampleur, l'angoisse, Seigneur. Je te demande que ces gens-là puissent trouver ce qu'ils ont besoin en toi. La paix, la vie, la joie, le bonheur, l'espérance, l'amour, Seigneur, en toi. Je te demande de les bénir, de les garder et de nous garder le reste de cette soirée également et qu'on puisse nous-mêmes réfléchir et que tu puisses nous éclairer, Seigneur, s'il y a des choses dans la vie qu'on fait juste jouer la comédie, Seigneur. Si c'est au travail, si c'est dans la famille, Seigneur, si c'est dans l'église même, si on est hypocrite, Seigneur, il n'y a pas de bonheur à être comme ça, Seigneur. Je te demande de nous aider à laisser ces choses de côté et à être des personnes vraies, des personnes authentiques, Seigneur, des personnes qui n'y a pas le mensonge, Seigneur, dans la bouche, mais qu'on parle la vérité, Seigneur, qu'on est authentique, qu'on est vrai, Seigneur. Je te demande également pour les réconciliations peut-être qui sont besoin d'être vues, les barrières, Seigneur, qu'on doit lever, les corbans, Seigneur, dans notre vie, qu'on a mis, Seigneur, sur des personnes, sur des cultures, sur des pays, sur des gens de différentes nations, pour des raisons, Seigneur, qui, à tes yeux, quand ils sont dans la balance, ça ne vaut rien. Alors, Seigneur, rends-nous, fais-nous grâce, aide-nous, Seigneur, à être plus comme toi, à avoir un cœur comme toi, un cœur qui aime, qui donne et qui se donne, Seigneur, à quiconque. Alors, merci Jésus, merci pour cette soirée, nous avons prié en ton nom. Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse, soyez en paix, bonne soirée, et n'oubliez pas, demain matin, 8h30, avec le pasteur Florent Giacomin, les bénédictions matinales, il poursuit l'étude sur le psaume 150, donc un psaume qui traite sur la louange. Ah non, pardon, c'est pas le psaume 150 que je dis là. C'est le psaume 121. Il était bon l'étude du psaume 150, c'est pour ça. Puis moi, j'aime bien la louange. Mais il poursuit avec le psaume 121, pardon. Et oui, le secours de Dieu. Alors, on sait bien que le secours de Dieu est important dans les temps qu'on vit aujourd'hui. Alors, bonne soirée et que Dieu vous bénisse. Au revoir.